Thomas Paine, Le sens commun, traduction par F. Lantenas. Ouvrage adressé aux Américains et dans lequel on traite de l'origine et de l'objet du gouvernement, de la Constitution anglaise, de la monarchie héréditaire et de la situation de l'Amérique septentrionale. Introduction. Les opinions que renferme cet écrit ne sont peut-être pas encore assez à la mode pour être généralement accueillis. Lorsqu'on est accoutumé depuis longtemps à ne pas regarder une chose comme injuste, elle acquiert une apparence superficielle de vérité, et de tous côtés s'élève un cri en faveur de l'habitude. Mais bientôt ce tumulte cesse. Le temps fait plus de prosélyte que la raison. Comme, en général, un long et violent abus de l'autorité conduit à en examiner les bases, et cela par rapport à des objets auxquels on n'eût jamais pensé si une inquisition sévère n'eût multiplié ses victimes, comme le roi d'Angleterre a entrepris, sur la foi de sa prérogative, de soutenir le Parlement dans ce qu'il appelle ses droits, et comme la nation trop indulgente est cruellement opprimée par cette coalition, elle est indubitablement fondée à scruter les prétentions de l'un et de l'autre et à rejeter également la tyrannie de tous les deux. L'auteur de cet ouvrage a soigneusement évité toute personnalité. On n'y trouvera ni censure ni compliments individuels. Les sages, les gens de mérite, n'ont pas besoin des honneurs d'un pamphlet, et ceux dont les sentiments sont absurdes ou contraires aux intérêts de la patrie s'arrêteront d'eux-mêmes, à moins que l'on ne se donne trop de peine pour les convertir. La cause de l'Amérique est, à beaucoup d'égards, celle du genre humain. Son histoire offre et offrira plusieurs circonstances qui ne sont pas locales, mais universelles, qui parlent au cœur de tous les amis des hommes et dont l'issue intéresse leurs affections. Pour peu que l'on ait de sensibilité, on ne peut voir avec indifférence des barbares porter le fer et la flamme dans un pays, déclarer la guerre à tous les privilèges de l'humanité et faire disparaître ses défenseurs de la surface de la terre. Voilà à quelle classe honorable je me fais gloire d'appartenir, sans m'embarrasser de la désapprobation de tel ou tel parti. On a différé de mettre au jour cette nouvelle édition pour se ménager la facilité de connaître les moyens de ceux qui auraient entrepris de réfuter la doctrine de l'indépendance s'il y avait lieu. Comme il n'a point encore paru de réponse au sens commun, l'on présume qu'il n'en paraîtra point, le temps nécessaire pour le combattre étant passé et au-delà. Philadelphie, le 14 février 1776. Chapitre 1er. De l'origine et de l'objet du gouvernement considéré en général. Remarque sur la Constitution anglaise. Quelques écrivains ont tellement confondu le gouvernement avec la société qu'ils n'ont laissé entre ces deux objets qu'une nuance très faible ou tout à fait nulle, tandis qu'ils diffèrent beaucoup, non seulement par leur nature, mais encore par leur origine. La société est le résultat de nos besoins. Le gouvernement est celui de notre perversité. La première effectue notre bonheur d'une manière positive en réunissant nos affections. Le second y contribue négativement parce qu'il réprime nos vices. L'une encourage les communications mutuelles, l'autre établit des distinctions. La première protège, le second punit. L'état social est un bien dans toutes les hypothèses. Le gouvernement, dans sa perfection même, n'est qu'un mal nécessaire. Dans son imperfection, c'est un mal insupportable. Car lorsque, sous un gouvernement quelconque, nous souffrons, ou nous sommes exposés à souffrir les mêmes calamités que nous aurions lieu d'attendre dans un pays où il n'y a point de gouvernement, nous sentons notre misère s'accroître en songeant que nous-mêmes fournissons les moyens dont on se sert contre nous. Le gouvernement, comme la parure, indique la perte de l'innocence. Les palais des rois sont bâtis sur les ruines du jardin des délices. En effet, si les mouvements de la conscience étaient clairs et uniformes, s'il était impossible de leur résister, tout autre législateur serait inutile. Les choses n'étant point ainsi, l'homme sent qu'il est nécessaire de céder une partie de sa propriété pour s'assurer la jouissance du reste. et cette résolution est le fruit de la même prudence qui, de deux mots, l'engage à choisir le moindre. Ainsi, la sûreté étant le véritable objet du gouvernement, il s'ensuit nécessairement que le mode de gouvernement, préférable à tout autre, est celui qui nous la garantit avec le moins de frais et le plus d'avantages. Pour avoir une idée juste et lumineuse de l'objet du gouvernement, supposons un petit nombre d'hommes établis dans un coin isolé de la terre, sans aucune relation avec le reste de leurs semblables. Nous aurons l'image précise de la situation primitive des peuples. Dans cet état de liberté naturelle, les premières pensées se tourneront vers la société. 1000 motifs leur feront prendre cette direction. La force de l'homme est si peu proportionnée à ses besoins, la nature l'a si peu fait pour une solitude continuelle, qu'il est bientôt forcé d'avoir recours à l'appui d'un autre qui, à son tour, implore le sien. 4 ou 5 individus réunis pourront élever dans un désert une habitation supportable, tandis que seul, un homme travaillerait toute sa vie sans rien finir. Il a coupé le bois dont il a besoin, mais il ne peut le changer de place. S'il est venu à bout de le transporter, il ne peut le faire tenir debout. Et pendant qu'il est ainsi occupé, la faim le tourmente, une multitude de besoins différents l'appellent chacun de leur côté. La maladie, même un léger revers, sont pour lui des accidents mortels, car l'un ou l'autre, dût-il ne pas le conduire au tombeau, le mettrait hors d'état de trouver sa subsistance, le réduirait à une situation où l'on pourrait dire de lui qu'il s'éteint plutôt qu'il ne meurt. Ainsi, la nécessité, irrésistible comme la loi de la gravitation, formerait bientôt en société notre peuplade. Et les douceurs mutuelles de cet état compenseraient avec usure les obligations des lois et du gouvernement, tant que la justice présiderait à l'accord de ses membres. Mais comme, excepté le ciel, rien n'est à l'abri des atteintes du vice, par une indispensable fatalité, ils se relâcheraient de leur attachement primitif à mesure qu'ils surmonteraient les premières difficultés du changement de séjour, difficultés qui les auraient unis dans l'origine. De là le besoin urgent d'établir une forme de gouvernement qui supplée aux défauts des vertus morales. Un arbre touffu leur présente un emplacement convenable pour une salle publique. Et sous ses branches, toute la colonie s'assemble afin de délibérer sur les affaires générales. Il est plus que probable que ces premières lois n'auront d'autre titre que celui de règlement et que la mésestime générale sera l'unique châtiment de quiconque osera les enfreindre. Chacun aura naturellement droit de séance dans ce premier parlement. Mais la colonie s'accroît, les affaires croissent en proportion. Les membres de l'État sont plus disséminés et l'éloignement de plusieurs ne leur permet pas de se réunir à tout propos, comme au temps où leur nombre était peu considérable, où leurs habitations se touchaient, où les affaires n'étaient ni importantes ni multipliées. On s'aperçoit qu'il est avantageux de laisser le pouvoir législatif entre les mains d'un certain nombre de représentants choisis dans le sein de la communauté. On leur suppose les mêmes intérêts qu'à leurs commettants, et l'on se flatte qu'ils agiront comme ceux-ci pourraient agir s'ils étaient tous présents. Cependant, la colonie continue de s'accroître. Il devient nécessaire d'augmenter le nombre des représentants, et pour qu'ils fassent une égale attention aux intérêts de chaque portion de la colonie, on juge à propos de la partager en un certain nombre de divisions, dont chacune envoie à l'Assemblée générale un nombre de représentants proportionné à son étendue. De peur que ceux-ci ne séparent leurs intérêts de ceux qui les choisissent, la prudence fait sentir la nécessité des élections fréquentes, parce que les personnes élues, retournant dans un court espace, se confondre avec la masse des électeurs, ceux-ci ont pour garant de leur fidélité au vœu général la crainte où ils seront de donner des armes contre eux-mêmes. Et comme ces changements réitérés établiront un même intérêt dans chaque partie de la communauté, il en résultera qu'elles se prêteront sans effort un secours mutuel, résultat fondamental d'où dépend la force du gouvernement et le bonheur de ceux qui sont gouvernés, ce qu'on attendait en vain du titre insignifiant de roi. Voilà donc l'origine et les progrès du gouvernement. C'est un supplément nécessaire à l'insuffisance de la morale. Voilà aussi son but, savoir la liberté et la sûreté. et de quelque splendeur que nos yeux soient éblouis, de quelque mot sonore que nos oreilles soient chatouillées, quelque préjugé qui égare nos désirs, quelque intérêt qui obscurcisse notre jugement, la simple voix de la nature et de la raison proclamera la justice de ces aperçus. L'idée que je me fais du gouvernement, épuisée dans un principe que la nature a consacré et contre lequel échoue l'art des sophistes, c'est que plus une chose est simple, moins elle est sujette à se désorganiser, plus elle se sépare aisément lorsqu'elle en a besoin. Les yeux fixés sur cet axiome, je vais hasarder quelques remarques sur la constitution si vantée de la Grande-Bretagne. J'avoue que c'était une noble entreprise pour les siècles de ténèbres et d'esclavage où elle fut formée. Quand l'univers était courbé sous le joug de la tyrannie, il y avait une audace généreuse à diminuer quelque peu son autorité. Mais il est aisé de démontrer que cette constitution est imparfaite, exposée à des convulsions terribles et incapable de tenir ce qu'elle semble promettre. Les gouvernements absolus, quoi qu'ils soient l'opprobre de la nature humaine, ont au moins l'avantage de la simplicité. Si le peuple souffre, il sait d'où vient son infortune. Il en connaît aussi le remède et n'a point devant lui, pour s'égarer, un dédale effrayant de causes toujours actives et d'améliorations toujours illusoires. Mais la constitution anglaise est si excessivement compliquée que la nation peut souffrir pendant une longue suite d'années sans être à portée de découvrir où gît le mal. Ceux-ci prétendent le voir dans telle partie de la constitution, cela dans telle autre. Et autant ils se rencontrent de médecins politiques, autant de divers antidotes nous sont présentés. Je sais qu'il est difficile de vaincre les préjugés locaux ou enracinés depuis longtemps. Si toutefois nous osons nous permettre d'examiner la constitution anglaise dans ses parties intégrantes, nous n'y verrons que les méprisables restes de deux tyrannies anciennes récemment combinées avec quelques matériaux de républicanisme. Elle offre en premier lieu les restes de la tyrannie monarchique dans la personne du roi. Secondement, les restes de la tyrannie aristocratique dans la personne des pairs. Troisièmement, les matériaux modernes du républicanisme dans les membres des communes sur la vertu desquels repose la liberté de l'Angleterre. De ces trois pouvoirs, les deux premiers, à titre d'héréditaire, sont indépendants du peuple. Ainsi, dans le sens constitutionnel, ils ne contribuent en rien à la liberté de l'État. Dire que la Constitution anglaise est l'union de trois pouvoirs qui se font réciproquement obstacle est dire une absurdité. Ou ce propos est insignifiant, ou il ne représente que des idées contradictoires. En disant que les communes répriment l'autorité royale, on présuppose d'abord qu'il ne faut rien confier au roi sans avoir l'œil sur ses actions, ou en d'autres termes, que le désir du pouvoir absolu est un mal nécessairement attaché à la monarchie. Deuxièmement, que les communes étant chargées de ce soin sont ou plus sages ou plus dignes de confiance que le premier magistrat. Mais comme la même constitution qui donne aux communes le pouvoir de réprimer l'autorité royale en lui refusant les subsides, donne au roi le pouvoir d'arrêter l'action des communes en lui donnant celui de rejeter leurs autres billes, elle suppose en même temps que le roi est plus sage que ceux qu'elle a supposés plus sages que lui. Or, n'est-ce pas là une véritable absurdité? Il y a quelque chose de singulièrement ridicule dans la composition de la monarchie. Elle commence par ôter à un homme les moyens de s'instruire, et cependant elle l'autorise à agir dans des circonstances où il faut toute la maturité du jugement. L'état d'un roi, le séquestre du monde. Et cependant les fonctions d'un roi exigent qu'il le connaisse à fond. D'où je conclus que les diverses parties de ce tout mal ordonné, ne cessant de se contrarier et de s'entre-détruire, prouvent qu'il est aussi extravagant qu'inutile. Des auteurs ont ainsi développé la constitution anglaise. Le roi, disent-ils, est un pouvoir, le peuple en est un autre. La chambre des pairs est établie pour venir au secours du roi, les communes pour venir au secours du peuple. Mais cette définition présente tous les disparates d'une assemblée où règne la discorde. Les expressions ont beau séduire par leur arrangement, à l'examen elles paraissent oiseuses et ambiguës. Dans quelque matière que ce puisse être, les mots arrangés avec toute l'exactitude dont leur construction est susceptible, si on les applique à la description d'une chose impossible ou trop difficile à saisir pour se prêter à la définition, seront purement des mots sans idée, et quoiqu'ils amusent l'oreille, ils n'apprendront rien à l'esprit. Ici, la prétendue explication que je viens de rapporter embrasse, sans le résoudre, un premier problème. D'où le monarque tient-il une autorité à laquelle le peuple n'ose avoir confiance et qu'il est toujours obligé de réprimer? Un peuple sage n'a pu faire un pareil don, et tout pouvoir qui a besoin d'être réprimé ne saurait venir de Dieu. Cependant, les mesures préservatives qui entrent dans la Constitution supposent l'existence d'un pouvoir de ce genre. Mais ces préservatifs sont trop faibles pour leur destination. Les moyens sont hors d'état de répondre à la fin proposée, et tout cet échafaudage tombe de lui-même. Comme un poids plus fort entraîne toujours un moindre poids, et comme toutes les roues d'une machine sont mises en mouvement par une seule, tout ce qu'il reste à savoir, c'est quel est, dans la Constitution, le pouvoir qui a le plus d'influence. Car c'est lui qui gouvernera, et quoi que les autres, ou quelques-unes de leurs parties embarrassent, ou, comme on dit, répriment la rapidité de son mouvement, aussi longtemps qu'ils ne peuvent l'arrêter, leurs efforts sont infructueux. Le ressort principal aura enfin le dessus, et le temps le dédommagera de ce qu'il aura perdu quant à la célérité. Il n'est pas besoin d'énoncer que la couronne est, dans la Constitution anglaise, ce pouvoir dominant. Un autre fait qui saute aux yeux, c'est que tout son ascendant lui vient de la distribution des pensions et des places. Ainsi, quoique nous ayons eu la prudence de fermer une porte à la monarchie absolue, nous avons eu en même temps la simplicité d'en donner la clé au pouvoir exécutif. L'orgueil national a autant ou même plus de part que la raison au préjugé des Anglais en faveur de leur gouvernement composé de rois, de lords et de communes. Véritablement, la sûreté individuelle existe en Angleterre plus que dans quelques autres pays. Mais la volonté royale y forme la loi tout comme en France. Note du traducteur. M. Paine écrivait ceci longtemps avant notre glorieuse révolution. La seule différence, c'est qu'au lieu de sortir directement de sa bouche, elle est transmise au peuple sous la forme plus imposante d'un acte du Parlement. Le sort de Charles Ier a rendu les rois plus rusés, mais il ne les a pas rendus plus justes. Laissant donc de côté tout orgueil national et tout préjugé en faveur des modes et des formes, il est de vérité constante que si la couronne n'est pas oppressive comme en Turquie, nous sommes redevables de cet avantage à la constitution du peuple et non à celle du gouvernement. À l'époque où nous sommes, il est infiniment nécessaire de rechercher les erreurs constitutionnelles du mode de gouvernement adopté par l'Angleterre. En effet, de même que nous ne sommes jamais dans une position convenable pour rendre justice à autrui, tandis qu'une partialité dominante influe sur notre jugement, nous ne saurions nous la rendre à nous-mêmes tant qu'un préjugé opiniâtre nous tient enchaînés. Et comme l'amant d'une prostituée n'est pas capable de choisir ou de juger une honnête femme, ainsi toute prévention en faveur d'une constitution vicieuse nous ôte la faculté d'en distinguer une bonne.